C'est encore un privilège de pouvoir m'approcher de toi ce matin. Ça nous paraît tellement normal, mais c'est une vraie grâce. Il n'y a rien en nous qui méritions de nous approcher de ce Dieu si grand, si saint, si parfait. Et pourtant, tu nous accordes cet accès uniquement parce que tu as tracé le chemin pour cet accès. Merci d'avoir quitté ta gloire, d'avoir payé le prix de la réconciliation. Merci d'avoir payé ce prix qui nous séparait éternellement. Seigneur, des fois nous l'oublions ou nous le banalisons, mais merci, merci pour ton œuvre à la croix, qui est le sens de notre vie. Merci d'avoir vaincu la mort, vaincu le péché. Merci Seigneur. Nous voulons apprendre jour après jour à être de plus en plus reconnaissants de cette œuvre, d'apprendre à tourner nos regards de plus en plus vers toi, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que tu ne nous laisses pas orphelins, tu as fait quelque chose qui me dépasse et que tu as voulu vivre en moi. C'est de la folie, mais tu l'as fait. Tu vis en nous par ton esprit et tu veux nous conduire jour après jour à te refléter, à te ressembler, à détruire encore ce qui reste, Seigneur, de cette chair qui combat contre ton esprit. Ce matin encore, je te demande une grâce particulière sur nous, d'accorder nos pensées vers toi, qu'on puisse être attentif. Combien il y a plein de choses qui vont nous distraire pendant ces 40 prochaines minutes, c'est une certitude, ça va être un combat spirituel, pas juste de concentration. Alors je te demande encore, par ta grâce, par la puissance de ton esprit, de nous garder attentifs sur ces 40 minutes par semaine à écouter ta parole cette parole prêchée, un moyen que tu as voulu de tout temps pour faire du bien à ton peuple. Accorde-moi les paroles à propos, accorde-moi l'intelligence, la sagesse qui vient d'en haut pour dispenser ce message comme toi tu aimerais. Vraiment, Seigneur, que ce temps soit un temps qui nous édifie, qui nous perfectionne, comme dit l'Écriture, pour de plus en plus te ressembler. Nous avons besoin de toi ce matin, j'ai besoin de toi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous allez trouver un titre, les 10 paroles de Dieu. On voit cette image sur le mur des réformateurs à Genève, pour ceux qui ont déjà vu ce mur, où on voit les tables de la loi dans les mains de ce réformateur. Vous savez, lorsque Dieu parle dans l'Ancien Testament, c'est parce qu'il a envie d'établir une relation avec les êtres humains. Et cette relation, si vous avez lu déjà un peu la Bible, elle commence dans la Genèse. Dieu veut commencer à parler avec Adam et Ève. Il veut créer une relation. Et Dieu, par sa parole, se révèle et veut aussi faire quelque chose que tous les chrétiens, où il y a beaucoup de livres qui sont écrits, connaître la volonté de Dieu. Dieu se révèle pour faire connaître sa volonté. Dieu, par sa parole, veut que son peuple apprenne à mieux le connaître. Quand Dieu parle, c'est pour qu'il se révèle sur sa personne, mais c'est aussi pour qu'il y ait cette relation avec sa création. Quand on arrive au chapitre 20 de l'Exode, Dieu va faire quelque chose d'assez particulier que pas grand monde a connu dans l'Écriture, c'est qu'il va parler directement. Dieu ne parle pas directement à tout le monde dans l'Écriture, il a souvent un médiateur ou des intermédiaires, mais quand il va parler en Exode 20, il va parler directement au peuple, comme il a fait avec Ève, comme il a fait aussi avec Abraham ou Moïse. Et à ce moment-là, il va parler directement au peuple, et ce passage est bien connu par nous les chrétiens, mais aussi par les gens du monde. On appelle ce passage souvent les 10 commandements. Hein? Mais ce matin, j'utiliserai peut-être un terme un peu différent, que vous voyez qui est marqué ici, les 10 paroles de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est le mot que Moïse utilise pour ces 10 paroles. Les 10 paroles sont le mot parole, ce n'est pas le mot commandement qui est mentionné là pour diverses raisons. Je n'expliquerai pas tout ce matin pourquoi. Mais les 10 paroles de Dieu vont résumer la manière dont les Israélites devaient vivre pour être une nation sainte, pour refléter leur Dieu saint, en fin de compte pour être distincte des autres nations et pour démontrer surtout leur amour pour Dieu. Les 10 paroles que Dieu a mentionnées à ce moment-là, c'est pour que le peuple puisse démontrer dans la pratique leur amour pour Dieu. Et de ces 10 paroles va découler 600 lois. Mais le socle, c'est ces 10 paroles, et ensuite ça va donner des lois, des commandements qui sont plus précis. Les 10 paroles de Dieu ont une spécificité, c'est qu'elles ont été gravées par Dieu lui-même sur des pierres. Elles ont été gravées par Dieu lui-même sur des pierres. Regardez avec moi ce premier passage. Ça peut nous paraître, on va le voir avant, je vous donne l'idée. Dieu parle pour inscrire son peuple à vivre sa vie d'alliance en tant que peuple libéré et racheté. Ça, c'est ce que nous allons essayer de voir ce matin. J'aurais dû mettre ce verset avant. Moïse fut là avec l'Éternel 40 jours et 40 nuits. Il ne mangea point de pain, nuit, point d'eau. Et l'Éternel écrivit sur les tables les paroles, les fameuses de l'Alliance, les 10 paroles. C'est très précis. Il ne parle pas des 600 lois. Il parle de 10 paroles. Il fait une petite distinction quand même. Les paroles de l'Alliance. Ces 10 paroles de Dieu sont plus que des simples règles de bonne conduite. Elles nous enseignent quelque chose sur la nature de Dieu. Elles nous enseignent quelque chose sur la relation entre Dieu et son peuple. Une relation d'alliance. Et gardez, je vous en supplie, parce qu'on n'a peut-être pas assez enseigné ça sur les 10 commandements, mais gardez en tête que ces paroles sont données dans un contexte de rédemption, de grâce et d'alliance. Ces paroles, je le répète, sont données dans un contexte de rédemption, de grâce et d'alliance. Ah, je ne l'ai pas mis, c'était la version d'avant. Il dit en Deutéronome 5, prenez avec moi Deutéronome 5, 2. Deutéronome 5, versets 2 et 3. Passage parallèle à notre passage de ce matin que nous allons lire dans quelques instants. L'Éternel, notre Dieu, a traité avec nous une alliance à Horeb. Ce n'est point avec nos pères que l'Éternel a traité cette alliance, c'est avec nous qui sommes ici aujourd'hui tous vivants. Verset 6, « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Ces paroles sont fondées sur l'acte de grâce de Dieu qui sauve son peuple. Ce n'est pas une condition pour devenir le peuple de Dieu. C'est très important. Les 10 paroles de Dieu ne sont pas données pour que le peuple fasse ça pour devenir le peuple de Dieu. Il est déjà le peuple de Dieu. Dieu est déjà intervenu par sa grâce et par la rédemption. Ce n'est pas par l'obéissance à ces paroles que le peuple a été libéré et racheté de l'Égypte. C'est important de comprendre ça. Parce que c'est quelque chose qui va être déformé plus tard par des chefs religieux. Les 10 paroles de Dieu sont données dans un contexte premier de rédemption et de grâce. Et par ces paroles, Dieu a voulu instruire son peuple à vivre sa vie d'alliance en tant que peuple libéré et racheté. Et leur obéissance allait être une preuve visible d'une vie dépendante et reconnaissante à Dieu. En obéissant à ça, c'était une manière de reconnaître il y a un seul Dieu, je me soumets à lui, je le reconnais comme l'unique et je veux vivre ce que lui me dit, pas ce que moi je veux, mais ce que lui me dit pour être différent des autres nations qui ne connaissent pas encore ce Dieu-là, pour en faisant ça, refléter aux autres nations qui est le vrai Dieu. Israël avait cette fonction-là. Regardons avec nous Exode chapitre 20, versets 1 à 21. Et nous, ce matin, nous regardons uniquement les 3 premières paroles de Dieu à son peuple dans les versets 1 à 7. Mais je vous invite à prendre Exode chapitre 20 à 21. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant: « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait mes miséricordes jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Il s'est reposé le 7e jour, c'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Tout le peuple, entendez les tonnerres et le son de la trompette. Il y avait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse, « Parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous ne mourions. » Moïse dit au peuple, « Ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. C'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchiez point. » Le peuple restait dans l'éloignement, mais Moïse s'approcha de la nuée où était Dieu. Sacré passage, hein ? Sacré passage. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Hop. Voilà. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Dieu a pris la parole et cette génération a entendu la voix de Dieu. Dans ce verset 2, Dieu commence par s'identifier et identifier la personne avec qui il va parler. Je suis l'Éternel et ton Dieu, sous-entendu bien sûr la nation d'Israël. Il parle du Dieu d'Israël ici. Donc on voit les deux parties qui sont là et on voit qu'à la fin de toutes ces paroles que Dieu va donner, puis ensuite les lois, il faut arriver à la fin du chapitre 24, même si nous l'avons lu tout à l'heure, pour voir ce qui se passe. Donc il donne ces 10 paroles, il y a les lois qui vont découler de ces 10 paroles, et il dit, Moïse prit la moitié du sang qu'il mit dans les bassins, il répandit l'autre moitié sur l'autel, il prit le livre de l'Alliance et le lut en présence du peuple, il dit, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Moïse prit le sang et le répandit sur le peuple en disant « Voici le sang de l'Alliance que l'Éternel a faite avec vous selon toutes ses paroles. » Nous sommes dans un contexte d'alliance. C'est intéressant qu'au temps de Moïse, il y a des nations qui sont autour. Alors, ils n'utilisent pas forcément le mot « alliance ». On parle de traité de suzeraineté. Alors, qu'est-ce que cela signifie à cette époque avec les nations autour? C'est quand une nation avait battu une autre nation, on concluait un traité ou une alliance. Et la nation qui avait gagné va aller assurer la protection de l'autre nation, aller lui accorder ses soins. Et en même temps, il y avait un engagement de respecter le traité et les conditions aussi de celui qui avait gagné. Dans ces traités, on voyait le nom du donateur et les bénéficiaires, puis un rappel à la relation entre les deux pour diverses raisons. Enfin, il y avait des témoins, un document écrit de l'alliance et des bénédictions ou des sanctions. Donc c'était des choses qui étaient déjà autour, dans les autres nations, et on peut retrouver certains de ces éléments ici, dans l'alliance que Dieu a fait avec Israël. Dieu rappelle comment les deux parties en sont arrivées là. Si on reprend notre passage avant, on voit qu'est-ce qui s'est passé. Je suis l'Éternel ton Dieu, qu'est-ce que Dieu a fait? Je t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Dieu a été le bienfaiteur pour Israël. Dieu a manifesté sa grâce. Dieu a fait le choix de sauver Israël de l'esclavage de l'Égypte. Dieu a conquis le cœur d'Israël, même lors de leur murmure. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a continué à déverser sa bienveillance. Ils murmuraient contre lui dans le désert. Il a continué à montrer son amour. La question, c'est quel autre Dieu aurait fait cela? Les dieux humains. Cette alliance est une occasion pour Israël de manifester de manière visible sa gratitude, sa reconnaissance à l'égard de Dieu. Ils sont devenus libres, retenez bien ça, ils sont devenus libres pour servir le vrai et l'unique Dieu. Et Dieu va commencer avec ça en fin de compte. Il va commencer, hop, avec ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. C'est la première parole de Dieu. Dieu demande une adoration exclusive. Il demande une adoration exclusive au seul et unique Dieu. Un culte exclusif à Dieu. Une consacration d'énergie, de temps, de pensée à Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel. Il n'y a pas d'autre Dieu que l'Éternel. Vous savez, quand Jésus va être tenté dans le désert, il va répondre à Satan ceci. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras, lui seul. Il n'est pas question d'une hiérarchie parmi les dieux. Dieu ne parle pas d'une hiérarchie où lui serait le premier à adorer, hein, ce que des fois peut sous-entendre cette traduction devant ma face, comme si c'était toi en premier en hiérarchie et puis il y aurait les autres. C'est plutôt l'idée, en dehors de moi, aucun Dieu existe. Je suis l'unique Dieu. Je suis vivant. Je vous ai démontré mon existence. J'ai entendu vos cris, moi. Les autres dieux, ils entendent, ils ont des oreilles, mais ils n'entendent rien. Moi, j'ai entendu vos cris. Je vous ai vu. J'ai vu votre souffrance. Les idoles, ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Moi, je suis descendu parmi vous. Je suis vivant. Israël a expérimenté ça, a déjà vu ça. Et moi, Dieu, je vous parle aujourd'hui. Les autres dieux ont des bouches, mais ne parlent pas. Moi, je vous parle. Les autres dieux sont sans vie. Et pourtant, pendant 400 ans en Égypte, les Israélites, je peux vous le dire, ils en ont vu des dieux. Ils en ont vu plein de dieux autour d'eux. Mais des dieux sans vie. Dieu veut que le peuple comprenne une chose, que s'ils existent, c'est parce que l'Éternel existe. Si nous existons, mes amis, c'est uniquement parce que Dieu existe. Notre vie n'aurait aucun sens, n'existerait pas si Dieu n'existait pas. Et Dieu veut premièrement reconcentrer leur regard vers lui. Chercher ailleurs, tourner ses regards ailleurs, c'est chercher le vide. Et cela amènerait à faire comme les autres nations, se fabriquer des dieux sans vie. J'aime une de ces prières de David. David est quelqu'un qui a vécu beaucoup de difficultés dans sa vie. Et des fois, on lui conseillait peut-être de chercher son secours dans les montagnes. Pourquoi les montagnes ? Parce qu'on pouvait monter, partir assez loin, se cacher. C'était quelque chose d'impressionnant, de haute. Ça donne une impression de quelque chose de fort, les montagnes. Hein, on pouvait même peut-être voir les ennemis. Donc peut-être un bon endroit pour être en sécurité. Même devenir peut-être un dieu, la montagne. Et David répondra dans ses psaumes. Je vais chercher mon secours. Pas dans les montagnes. D'où me viendra le secours ? Dans les montagnes ? Non, le secours me vient d'où ? De l'Éternel. Pourquoi ? Parce que pour David, il n'y avait pas d'autre Dieu, pas d'autre solution que uniquement le Dieu Tout-Puissant, créateur des montagnes, au-dessus des montagnes. Il allait juste se réfugier dans la création, mais pas dans le Créateur. Ce que nous sommes des fois capables de faire aussi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ce qui emmène à Dieu a la deuxième parole qui est cohérente, qui est dans la continuité. Je pense qu'il y a tout un raisonnement logique de la part de Dieu dans ces 10 paroles qu'il donne. Hein. La deuxième parole que Dieu donne, tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, comme la montagne, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Cette parole de Dieu concerne ici, dans le contexte, la fabrication d'une idole dans l'intention de se soumettre au Dieu qu'elle représente. C'était ça, un idole. On fabriquait quelque chose de palpable, de visible, en lien avec une divinité. Il n'existe aucun peuple qui n'a pas un rapport à la divinité. Ça n'existe pas. Vous pouvez lire même des historiens ou des sociologues ou même ethnologues non chrétiens vous diront que toutes les ethnies, toutes les cultures ont un rapport à la divinité. Hein? Comme dirait Jean Calvin, le cœur de l'homme est profondément religieux. Après, vers quoi il tend son cœur, ça c'est autre chose. Mais l'idolâtrie est un système religieux, un style de vie qui va à l'encontre de ce que Dieu est, de ce que Dieu désire, de ce que Dieu veut en fin de compte pour sa création, avant même de parler de son peuple, pour sa création. L'idolâtrie dans la Bible est fondée sur plusieurs dieux et il y a une spécificité à l'idolâtrie, c'est que chacun était spécialisé dans un aspect du monde ou de la nature. Il y avait le dieu personnel, le dieu familial et le dieu national. Mais pas de place pour le dieu unique, pas de place pour un dieu créateur, un dieu souverain et suffisant, ça n'existe pas dans l'idolâtrie. Et cet accès auprès des dieux était assuré par quoi ? Par la fabrication d'idoles. Et le cœur de l'homme, vous savez quoi ? Est une fabrique à idoles. Ça peut nous paraître un peu bizarre pour nous les Occidentaux en 2025. Je suis allé en Afrique, j'ai vu ça. Je suis allé en Birmanie avec Ben, on a vu ça. J'ai jamais vu autant d'idoles de ma vie et que les gens donnaient à manger aux idoles, donnaient de l'argent aux idoles. Parce que pour eux, c'était un vrai rapport avec la divinité. En 2016 peut-être, on allait, je pense que ça n'a pas changé aujourd'hui. Mais nous verrons tout à l'heure qu'il y a peut-être d'autres idoles qu'on mentionne moins dans notre monde occidental. Si un Israël demandait à un voisin égyptien ou cananéen, comment tu cultives ici tes terres ? Il est fort possible que cette personne commencerait son explication par une description de la manière de faire des offrandes à ses dieux, avant de préparer des champs et de les planter. Parce que les idoles nous sécurisent. Ça sécurisait ces cananéens ou ces égyptiens de faire des offrandes à ces dieux-là, parce que ça les sécurisait pour espérer d'avoir des champs qui allaient fleurir. L'idole vous vendra toujours ce mensonge. Il veut vous sécuriser. Comme les montagnes. C'est un lieu sûr, vas-y. Pareil pour les nations économiquement prospères. La réussite économique allait de pair avec l'idolâtrie. Je pense que l'Égypte qu'on a étudié est un exemple. Et quand on a vu Babylone là, déjà, c'est pareil. Des nations idolâtres par rapport à la prospérité économique. Ils identifiaient leur Dieu à une image. C'est rassurant. Mais vous savez, 2000 ans plus tard, notre histoire, quand on arrive avec l'apôtre Paul à Rome, est-ce que les choses ont vraiment changé ? Absolument pas. 2000 ans plus tard, toujours la même problématique. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur. Donc, l'histoire continue, même 2000 ans plus tard. Cette deuxième parole de Dieu, mes amis, n'a pas pris racine dans le cœur du peuple. Vous savez pourquoi elle n'a pas pris racine dans le cœur du peuple ? Est-ce que vous avez un argument fort que vous connaissez tous ? Pourquoi on voit que cette parole n'a pas pris racine dans le cœur du peuple ? Qu'est-ce qui se passe quelques mois plus tard ? Je n'ai pas entendu ? Le veau d'or ! Le thème de l'idolâtrie, est-ce un thème important dans l'Ancien Testament ou pas ? Bien sûr ! Je viens de finir Ésaïe. Je ne connais pas un livre de l'Écriture dans l'Ancienne Alliance où la notion de l'idolâtrie ne va pas venir. Quand on observe la vie d'Israël, pour eux, c'était aussi difficile de croire en un Dieu unique et créateur, un Dieu souverain et suffisant. On le voit, comme vous venez de dire, dans le veau d'or. Quelques siècles plus tard, ils vont faire tout un système du syncrétisme, on appelle ça, faire du mélange. L'idolâtrie est quelque chose qui était attaché à eux. Ils avaient la possibilité d'avoir leur Dieu personnel, leur Dieu familial et le Dieu national éternel. Vous voyez ? Un Israélite pouvait adorer Dagon, pouvait faire Baal, mais après tous ensemble, Alléluia, on chante à l'Éternel. Oh si, on va écouter un peu les paroles de Dieu pendant les grandes fêtes en Israël. Un Israélite pouvait avoir ce fonctionnement de vie. Et si vous posiez la question à un Israélite, est-ce que vous croyez en l'Éternel ? Qu'est-ce qu'il allait répondre ? Mais oui, mais immergé dans son idolâtrie. Dieu sait que l'idolâtrie est contagieuse et destructrice. L'idolâtrie, c'est commettre un adultère dans cette relation d'alliance. Ne perdez pas de vue ça. C'est une relation d'alliance que Dieu est en train de faire avec son peuple et sa nation. Il veut les protéger. C'est des paroles pour les protéger, à refuser ça. Parce qu'ils ont tout, tout pleinement en leur Dieu qui vient de les libérer, de leur démontrer de manière visible sa toute puissance, sa toute souveraineté. Il vient de leur démontrer tout ça. Il arrive avec des paroles de grâce, en fin de compte, pour leur dire, voilà, ça, ça va vous protéger. Ça va vous aider à me refléter. Autant les fameuses paroles qui ont un lien du peuple avec Dieu qu'entre eux. Des paroles qui protègent de la destruction. L'idolâtrie encourage des comportements entièrement matérialistes. Le veau d'or a coûté cher, hein ? L'idolâtrie minimise aussi l'importance des comportements éthiques. À plusieurs reprises, le peuple a des comportements d'immoralité sexuelle. On retrouve aussi cela au temps de Paul avec le temple de Diana à Éphèse. Il y avait des problèmes dans cette église d'Éphèse. Il y avait un problème d'unité, mais il y avait aussi un problème d'ordre moral. Pourquoi ? Parce que les gens qui avaient grandi dans la culture éphésienne, pour les hommes surtout, ce n'était pas une difficulté d'aller coucher avec des prostituées du temple de Diane, parce que c'était un moyen de fertilité ou de montrer qu'on avait les faveurs des dieux. C'était ancré dans le système religieux. Et quand un enfant de Dieu se convertissait, mais qui pendant des années avait pratiqué ça, est-ce qu'il n'avait pas des fois des moments de rechute pour aller encore là ? Et puis il avait besoin de détruire ça. Je n'ai plus besoin de revenir toucher à ces prostituées, pensant que je vais avoir les faveurs de mon Dieu dans la prospérité, dans la fertilité dans mon foyer ou dans la prospérité de mon travail. Je n'ai plus besoin de ça. C'est un combat. Nous, on lit ça des fois tout rapide, mais il y avait des combats dans ces églises. Mais pour vous montrer encore que l'idolâtrie était là. Mais toutes ces formes d'idolâtrie existent encore aujourd'hui dans notre société occidentale. Rien de nouveau sous le soleil. Les chrétiens ne sont pas à l'abri de l'idolâtrie. Et Dieu dit toujours, tu ne te feras pas d'idole et tu ne te prosterneras pas devant elle. Ça n'a pas changé. L'idolâtrie est premièrement spirituelle. Nos cœurs peuvent se prosterner devant des idoles. Je peux avoir mon idole au travail, mon idole dans la famille, et puis venir le dimanche dire Alléluia à l'Éternel. Tout peut devenir une idole. Tout ce qui captive mon cœur, mon imagination, tout ce qui remplace les biens que Dieu seul peut donner devient une idole. On peut avoir des idoles dans tellement de domaines. J'en sors un de ma poche. Il est où ? Attendez. Ça nous fait sourire. Hein. Jean a fini sa première épître avec « Petits enfants, gardez-vous ». Gardez-vous des idoles. Gardez-vous des idoles. C'est la dernière phrase que Jean, qui a côtoyé le Seigneur Jésus-Christ, qui va entendre parler aussi de ses commandements par la part de Christ, il va finir en disant, je vous en supplie, gardez-vous des idoles. Il parle aux chrétiens. Il parle aux chrétiens. Face à l'idolâtrie, dans un contexte d'alliance, vous allez voir qu'il est tout à fait compréhensible la suite du passage. Dieu est jaloux. Cette expression en français, malheureusement, véhicule un sens négatif qui n'est absolument pas présent dans le mot hébreu. Et il faut savoir que le mot qui est en hébreu pour le mot jaloux revient uniquement pour Dieu, jamais pour l'être humain, c'est un autre terme hébraïque. Mais le terme hébraïque ici pour Dieu, ce n'est absolument pas un terme lié à quelque chose de négatif. C'est un mot exclusif à lui, toujours dans un contexte d'alliance. C'est en gros que Dieu n'accepte pas d'être partagé avec un autre. Hein ? Dieu exige une fidélité dans une relation d'alliance et sa réaction à l'infidélité s'exprime par ce terme hébraïque qu'on a traduit, on a essayé de traduire en français par jalousie. Mais c'est ça le vrai sens, c'est d'être passionné pour une autre personne. En tant que leur rédempteur, Dieu est passionné par le peuple de Dieu. Il veut s'engager ardemment à cette relation exclusive avec son peuple parce qu'il les aime. Et tout cela découle d'un amour profond pour Israël. C'est pour ça qu'il est jaloux. Et c'est comme ça qu'il faut voir cette expression quand on parle d'un Dieu jaloux dans la parole de Dieu. Israël est la propriété de Dieu. Israël appartient à Dieu. Alors les conséquences peuvent nous choquer. Qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la troisième et quatrième génération de ceux qui me haïssent et qui fait miséricorde jusqu'à la mille génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Le contexte, il est important de comprendre le contexte de ce passage. On est dans une société qui se compose en grande partie de familles quoi ? Multigénérationnelles. Il pouvait des fois avoir une, deux, trois, même jusqu'à quatre générations dans la même famille, sous le même toit pendant plusieurs temps. Ça, il faut le garder en tête. Et quand Dieu dit qu'il punit les générations, c'est sous le même toit. Une des générations qui pratiquerait l'idolâtrie allait impacter et influencer aussi les autres. Et si les autres restaient silencieuses, même pas qu'elles ne faisaient pas, mais si elles restaient silencieuses, elles étaient complices de cela, parce qu'ils vivaient tous sous le même toit en termes de génération. Et Dieu dit, tout le monde va payer. Parce que ce que je veux, c'est votre cœur. Je ne veux pas que votre cœur aille vers quelqu'un d'autre. Parce que je vous aime. Vous êtes en train de vous détruire, de vous perdre. Je ne veux pas ça. On pense un peu, vous savez, à l'histoire de Hakan. Toute la nation s'arrête, hein, pour un gars qui a planqué un truc. Ça peut paraître sévère. Mais Moïse a écrit un passage qui équilibre les choses, avant de venir à la deuxième partie. Moïse va écrire, donc on est toujours avec Moïse, hein. On ne fera point mourir les pères pour les enfants et n'en fera point mourir les enfants pour les pères, on fera chacun pour son péché. Dieu punira en effet génération après génération, s'ils continuent à commettre les mêmes sortes de péchés que les générations précédentes ou qu'ils sont ensemble et qu'ils se mettent pas les choses en règle. Mais dans ces versets, on voit un équilibre. On voit un équilibre et on voit que Dieu responsabilise les individus. Ça, c'est important aussi à souligner, que Dieu responsabilise les individus ici. Et si vous êtes fort en mathématiques, dans ce même verset qu'on est en train de lire avant, je pense que le contraste numérique est peut-être un des contrastes les plus grands dans la Bible ici. 3-4 générations, en opposition à quoi ? À 1000 générations, à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Qu'est-ce que vous voulez ajouter à cela ? Bénédiction spirituelle pour les générations qui obéissent. Et elles peuvent être nombreuses pour Dieu. Il y a quelque chose de très positif ici. Les générations peuvent enchaîner avec l'obéissance. Démontrer cet amour pour Dieu. Il y a un mot qu'un professeur m'avait dit une fois pour retenir, qui fait miséricorde. C'est peut-être un mot important pour comprendre aussi ici la chose. Il avait expliqué que c'est comme si quelqu'un est dans un trou, qui est dans sa misère, et je pense des fois ça peut être nous, ça peut être le peuple d'Israël à des moments donnés, et puis il y a une corde qui est quand même tendue là. Et puis il saisit sa corde pour sortir. Et je crois que notre Dieu, c'est ça la miséricorde. C'est ça qu'il a fait de nombreuses années et de nombreuses fois avec Israël, dans leur misère, dans leur idolâtrie. Et les gens qui saisissaient ça disaient, ok, maintenant c'est fini, je suis dans ma misère avec cette idolâtrie, je n'en veux plus, je veux t'obéir, je veux te suivre, Seigneur. Et Dieu prend plaisir à la miséricorde. Il prend plaisir à exercer la miséricorde avec son peuple. La punition et la miséricorde, retenez aussi, ne sont pas liées à la rédemption ici, mais au fait de vivre ou pas les paroles de Dieu en tant que le peuple de l'Alliance. Ils sont le peuple de l'Alliance. Ce n'est pas la désobéissance qui va faire qu'ils ne sont plus le peuple de l'Alliance ici, ni dans ce contexte-là. Ils sont rachetés et libérés. Nous recevons les conséquences de notre obéissance ou pas en tant que peuple de l'Alliance. On finit avec la troisième parole que nous verrons ce matin. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra le nom de l'Éternel. Alors je me suis posé quelques questions par rapport à ça, ce n'est pas forcément évident. Qu'est-ce qu'implique le fait de prendre le nom de Dieu en vain ou mal l'utiliser, hein? Pourquoi son nom est-il si important? Et pourquoi il fait partie de ces 10 paroles de Dieu? Ça aurait pu être mis à un autre moment. Et quel type de punition, hein? Parce que là, on ne voit pas grand-chose ici. La première chose qu'on peut dire à travers ça et de ce qu'on sait de Dieu, c'est que Dieu ne veut pas qu'on prenne son nom à la légère. Et retenez quelque chose qui est très important aussi. Quand Dieu se révèle à Moïse, il commence par expliquer quoi à Moïse? Son nom. Il explique son nom. Je suis celui qui est, je suis l'Éternel. Le nom de l'Éternel n'est pas à prendre la légère. Il ne veut pas que son peuple utilise son nom de manière irrespectueuse ou pour l'utiliser comme un mot de superstition ou de quelque chose qui est superstitieux. Ce n'est pas une expression culturelle. On n'utilise pas le nom de Dieu de manière culturelle, mais de manière cultuelle dans un bon contexte et avec un cœur authentique. Son nom est lié au culte de l'adoration. Il y a une profondeur, en fin de compte, dans le nom de Dieu. On ne peut pas utiliser le nom de Dieu comme cela. Je suis celui qui est, je veux qu'on traite mon nom avec le plus grand des respects. Voilà ce que Dieu veut pour son peuple. Ces trois paroles pourraient demander bien plus, hein. Mais ma question maintenant, c'est comment en tant que chrétiens devons-nous réagir à ces trois premières paroles de Dieu concernant l'ancienne alliance? Devons-nous aussi obéir à ces paroles? Qu'est-ce que Christ nous enseigne par rapport à cela? Ça, c'est les bonnes questions qu'on peut se poser. Alors, ces trois premières paroles de Dieu semblent avoir été résumées par Jésus en un seul commandement. On lui pose la question. Jésus répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Une parole qui est reprise aussi du Deutéronome, hein, du même contexte. Et quand Jésus s'exprime, nous sommes dans l'entre-deux. C'est compliqué cet entre-deux. On est dans l'ancienne alliance, Christ arrive, mais la nouvelle alliance n'est pas encore traitée. On est un peu dans les deux. Par contre, quand il parle, je suis convaincu que les auditeurs de Jésus comprennent très bien qu'il fait référence aux paroles de Dieu qu'on appelle le décalogue, vous avez peut-être déjà entendu, les 10 premières paroles. Il est en train de faire référence à ça. Et la plupart des bons théologiens vont faire référence que les premiers commandements de Jésus résument les 4 premières paroles et le deuxième que vous connaissez, qui parle d'aimer son prochain comme soi-même, résume les 6 autres paroles. Mais c'est intéressant ici aussi que Jésus n'est pas en train de dire au peuple que l'obéissance à ses paroles est un moyen de salut. Jamais il n'utilisera ça. Jésus est en train de dire que ceux qui obéissent à ce premier commandement sont des fruits visibles de personnes qui aiment vraiment Dieu et qui appartiennent vraiment à Dieu. C'est ça. Et les Juifs pensaient que c'était cette obéissance-là qui allait procurer le salut. Mais c'est faux. Même dans le contexte de l'Exode, ce n'est jamais été ce moyen-là de procurer la vie. Les commandements, ou des fois on va appeler ça la loi de Dieu, mais je ne m'étende pas sur ce sujet-là, ça ne procurera jamais la vie. Il faut qu'il y ait une rédemption avant. C'est ce que Jésus dit aussi un peu plus tard. Si vous m'aimez, gardez mes commandements et vous serez sauvés. C'est votre moyen de salut. Non ! Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Quelques années plus tard, Jean dira aux chrétiens, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Comment ? Lorsque nous aimons Dieu, comment ? Et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements et ses commandements ne sont pas pénibles. Quels sont ses commandements? Il parle bien sûr des deux commandements que Jésus a cités. Mais comment rendre visible ce premier commandement? Et je crois que d'adorer Dieu de tout son cœur, de ne pas se faire d'idole, d'honorer le nom de Dieu, comprend cette mise en pratique. Pour être sauvé? Non. Pour conserver son salut? Non. Pour refléter le caractère de Dieu? Oui. Pour honorer cette alliance? Oui. Oui. Mais il y a un problème, c'est que le cœur humain est tellement fragile pour respecter les 10 paroles de Dieu. Israël en est la démonstration. Chacun d'entre nous dans cette salle, nous avons échoué dans les 10 paroles de Dieu. N'est-ce pas? Les paroles de Dieu et les 3 que nous avons déjà vues, il y en aura d'autres, veulent aussi mettre en lumière la nature pécheresse de l'homme. Notre incapacité à les vivre. Quand Jésus dit « Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta pensée, de toute ton âme », il est en train de confronter le cœur de l'homme à sa propre nature. Il révèle l'état de notre cœur. « J'ai besoin d'une sacrée chirurgie de mon cœur pour vivre ce que Jésus demande à ce moment-là. » C'est pourquoi je crois à la circoncision du cœur. Je crois à la régénération, je crois à la nouvelle naissance, ces mêmes mots, avant de pouvoir vivre ça. Il a besoin d'avoir une rédemption avant de pouvoir vivre le commandement de Christ. Israël avait besoin d'être racheté, connaître la rédemption, avant de pouvoir vivre les paroles de Dieu. Il nous faut, comme l'Exode, un acte rédempteur qui précède la possibilité de garder les commandements de Dieu. Sinon, c'est impossible. C'est impossible. Mais la bonne nouvelle, c'est que Christ est venu me libérer, est venu nous libérer de l'esclavage du péché et de Satan. Ça, c'est la bonne nouvelle. Christ a pleinement accompli toutes les paroles de Dieu. Christ va même nous donner la capacité par son esprit qui est là en nous de pouvoir faire ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'il est utilisé le mot pratiquer, le mot garder ici, vivre ces commandements de Christ. Ce n'est pas un moyen de salut ou de conserver son salut, c'est des paroles qui font écho avec la loi de Christ de cette nouvelle alliance. Dans cette relation d'alliance, notre cœur veut aimer Dieu par des signes visibles. Comment? Pas d'autre Dieu, pas d'idole. Honorer le Dieu honorer Dieu dans notre vie. Et nous en avons la capacité par le Saint-Esprit qui est en nous. Alors, quelle voie j'ai besoin de réformer ce matin pour garder les commandements de Dieu, pour pratiquer ces commandements que Dieu me demande, dans cette relation d'alliance? Dans cette relation d'alliance, quelle voie ai-je besoin de réformer ce matin? Dieu veut que je manifeste mon amour pour lui. Dieu me fait miséricorde jour après jour. Sinon, à prier ça. Mais quelle voie ce matin? Quelle peut être? Qu'est-ce qui peut prendre la place de Dieu dans mon cœur? C'est subtil des fois. On va prendre un temps pour prier, chacun, personnellement avec son Dieu. Il est le seul à pouvoir venir examiner notre cœur et nous aider à réformer nos voies dans le but de pouvoir aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée. Si vous observez bien, les trois paroles de Jésus n'a rien de faire des choses au départ. C'est tout intérieur, c'est d'abord spirituel avant de pouvoir passer à l'action. Prenons un temps et puis ensuite je demanderai à Céline et à Céline de venir conclure ce temps de culte.